Peut-être que pour vous rafraîchir un tout petit peu la mémoire, je vais vous rappeler qu'en fin de compte, il y a deux interventions pour lesquelles vous n'aviez pas encore eu l'occasion de poser quelques questions ou de faire des commentaires. Et je me permettrai en deux minutes d'essayer de resituer le débat en vous rappelant cette idée de la neurophénoménologie qui consiste à essayer de rapprocher des tendances, l'une à l'objectivation, l'autre à la subjectivation. Simplement pour vous rappeler qu'au fond, ce que nous a présenté Bernard Frank, qui est très inscrit dans une... Pardon, pas Bernard Frank, je suis désolé. Nicolas Frank. Après Bernard Pachou. Est assez clairement dans le sens d'une psychiatrie qu'on va dire de façon non péjorative très, très positiviste. Et la dimension de sociologie subjective dont nous parlait Nicolas Pachou, était, elle, dans une perspective très, malgré tout, subjectiviste. Et je me suis demandé s'il ne fallait pas essayer de prendre très rapidement, d'essayer de jeter quelques ponts entre les deux. En particulier, dans l'exposé que nous a fait Bernard Pachou, il nous avait parlé, à un moment donné, d'une sorte d'équilibre entre la sociogenèse passive et l'appropriation d'une singularité délibérée. Et il a essayé ainsi de faire une sorte de psychopathologie de la construction de la réalité quotidienne. Et il y a un écho, il me semble, à faire dans ce que nous a présenté ensuite Nicolas Frank. L'intervention de Nicolas Frank montrait bien comment la réalité de travail fait partie, et ce à partir de quoi nous travaillons pour essayer de réinsérer les schizophrènes, réhabiliter les schizophrènes. Et qu'au fond, nous avons tendance à ne pas questionner cette réalité de travail. Mais si on la questionne un petit peu, ce qui est présenté dans une intervention, dans l'intervention de Nicolas Frank comme une incapacité, au fond, à travailler, qui caractériserait les schizophrènes, si on la regarde sous l'angle d'une appropriation d'une singularité délibérée chez les schizophrènes, on peut aussi comprendre l'incapacité des schizophrènes à travailler comme une capacité à ne pas travailler. Et le phénoménologue aurait tendance à essayer de rapprocher les deux et de voir comment il y a une sorte d'équilibre et comment finalement, par exemple, une autre illustration de cette comparaison, de cette tension qu'on peut faire d'un point de vue neurophénoménologique, c'est de se dire que les outils de remédiation cognitive que nous a présenté Nicolas Frank questionnent finalement, malgré eux, la réalité de travail. Ils la questionnent parce qu'ils abordent la réalité de travail à partir du jeu. Et l'abordant à partir du jeu, ils abordent une réalité de travail à partir d'une réalité imaginaire qui, même si elle est formée sur le modèle de la réalité de travail, est quelque chose qui introduit une certaine distance, une certaine... ce que, dans l'intervention de François de Gante, on appelait l'agathon, est quelque chose qui nous permettrait justement de faire le pont. Et on peut se poser peut-être une question, est-ce que... la thérapeutique en psychiatrie, est-ce que la réhabilitation, est-ce que ça ne passe pas toujours par une sorte de réintroduction d'une réalité de jeu qui nous permet de tenir une certaine distance, qui aide le patient à tenir une certaine distance et qui lui permet à ce moment-là, effectivement, de penser, mais pas trop, à ce que ça veut dire que vivre au quotidien. Alors voilà bon, une sorte de synthèse que je vous propose. Et puis maintenant, peut-être qu'on peut donner à nouveau la... la place à une petite remarque de Nicolas Frank et puis peut-être après à vos questions.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu proposes. Simplement, je voudrais quand même dire que ma présentation pouvait laisser croire qu'on avait une approche très normalisatrice des patients et qu'on voulait absolument les remettre au travail dans un processus bien codifié et nullement distinct pour chaque patient. Mais non, on travaille sur des projets individuels. Le but n'est pas qu'ils travaillent tous, qu'ils entrent dans un moule, mais le but est qu'on puisse déterminer avec le patient le projet qui paraît le plus approprié en tenant compte des différents champs d'interprétation. Donc il y a plein de patients qu'on ne va pas du tout tenter de remettre au travail, mais on va tenter plutôt de leur permettre de s'accomplir plus complètement. Et certains, ça va être à travers des activités artistiques, d'autres, ça va être à travers des activités de loisirs diverses et variées. Et puis pour certains d'entre eux, ce serait effectivement leur permettre de retravailler parce que c'est ce qui paraît le plus approprié quand on intègre tous les paramètres. Mais ce n'est pas du tout quelque chose qui est systématique. Parce que bon, j'étais un petit peu trop axé travail peut-être, mais il n'y a pas que ça dans la vie des gens, bien entendu.
S'il y a des questions dans la salle, on va Ah, des questions à gauche.
Bonjour. J'ai deux questions qui sont liées à une recherche anthropologique qui a été réalisée dans un centre en France qui utilise le programme RECOS et qui met en évidence un décalage énorme entre les performances aux tests, souvent des jeux sur ordinateur, et l'adaptation dans la vie de tous les jours. Donc, des entretiens ont été réalisés avec la famille et l'entourage, et apparemment, les améliorations n'étaient pas vraiment visibles. Les entretiens avec les personnes schizophrènes qui étaient aptes à répondre aux questions disaient que, bon, elles venaient au test, puis finalement, c'était un moyen de se socialiser, de jouer, ça ne leur posait pas trop de problèmes, mais qu'ils ne voyaient pas vraiment d'amélioration, enfin, ils ne voyaient pas vraiment en quoi ça pouvait les aider. Donc, la première question, c'est quel rapport entre l'amélioration au test et l'adaptation sociale et l'insertion professionnelle ? Première question. Deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas problème à redéfinir la schizophrénie, non pas sur les signes qui servent à définir la schizophrénie, c'est-à-dire les signes positifs et négatifs, mais à la redéfinir en fonction de ce que l'on sait faire, c'est-à-dire des tests cognitifs ? Merci.
Oui, tout à fait d'accord avec vos remarques. C'est bien ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si on fait la remédiation cognitive sans prendre en compte le projet spécifique du patient, et qu'on le fait pour le faire, avec comme cible les processus cognitifs déficitaires, on est peu pertinent. On est pertinent uniquement si on remédie, si on agit sur des processus cognitifs qui vont être utilisés dans la vie quotidienne. Moi, je travaille en particulier dans mon centre en lien avec une structure qui permet la reprise du travail, qui s'appelle le département de réinsertion socio-professionnelle. Et on prend en compte ce que nous disent les moniteurs, les infirmiers de ce centre, du déficit du patient dans ses fonctions quotidiennes, pour travailler sur les processus cognitifs qui vont être utiles. Par exemple, autrefois, une monitrice me disait qu'un patient était incapable de s'adapter quand il passait, c'est quelqu'un qui travaille aux espaces verts, d'une serre où il faut arroser depuis le haut, au tuyau d'arrosage où on arrose à l'extérieur depuis le bas. Il a un problème de flexibilité cognitive. Vous voyez, là, pour ce patient-là, c'est quelque chose de très concret, ça paraît complètement trivial, mais en même temps, sa vie est gâchée à cause de ça. On va travailler sur la flexibilité cognitive avec un objectif réellement précis dans la vie quotidienne du patient. Donc on a une articulation avec des séances équipe du DRSP, équipe du centre de réhabilitation, 4 fois par an, enfin 8 fois par an si on compte avant et après, pour toutes les sessions qu'on fait, afin de définir des objectifs qui vont être utiles. Ça, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. C'est soit on applique RECOS comme ça de manière standardisée, puis ça ne sert pas à grand-chose, et on va questionner l'intérêt pragmatique de l'utilisation de RECOS, soit on utilise RECOS pour faire quelque chose dans la vie des gens. Ça, c'est la manière dont on va utiliser l'outil, ce qui va permettre aux patients de se l'approprier. Parce que s'ils viennent juste pour faire des exercices, évidemment, ça va servir à pas grand-chose. Ça, je suis complètement d'accord avec vous. Quant à la deuxième question, il ne s'agit certainement pas de redéfinir la schizophrénie autour des problèmes neurocognitifs. Ce qui fait le diagnostic de schizophrénie, on est bien clair, c'est un problème de vécu, et ce sont les symptômes, positifs, négatifs, etc. Là, ce que je dis simplement, c'est qu'il y a les symptômes de schizophrénie, mais qu'il y a aussi des choses qui ne sont pas prises en compte dans la définition de ces symptômes, qui sont les troubles neurocognitifs, qui jouent un rôle important dans le handicap des patients, et qu'il faut utiliser des outils pour traiter ce déficit cognitif, parce que sinon, le pronostic fonctionnel est moins bon. Il ne s'agit pas de redéfinir la schizophrénie. Ensuite, c'est vrai qu'il y a une ambiguïté, parce que je dis qu'il y a à la fois les problèmes neurocognitifs, à la fois des troubles cognitifs spécifiques qui vont être impliqués dans la genèse des symptômes. Mais ça, j'en ai peu parlé aujourd'hui, et on n'est pas encore à redéfinir toute la schizophrénie autour des processus cognitifs déficitaires, parce qu'on n'a pas une vision d'ensemble des choses. Ça, c'est l'objet de la recherche actuelle. Il y en a encore pour quelques temps avant d'avoir une vision d'ensemble. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup écrit sur les symptômes négatifs expliqués par tel déficit cognitif, les positifs par tel déficit cognitif, la désorganisation par un tel, mais on n'en est pas encore à faire une définition, une redéfinition de la schizophrénie. Même si volontiers, moi, j'aurais tendance à la découper par syndrome et à dire que ces syndromes expliqués par tel et tel déficit cognitif sont plus pertinents à étudier que la schizophrénie, qui est un vaste sac hétérogène. Mais néanmoins, c'est encore de l'ordre de la recherche. Et ce n'est pas la même chose que les problèmes neurocognitifs dont on parle aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas si j'étais bien clair. Merci.
Oui, bonjour. Moi, ce qui me pose question, en fait, c'est quelles sont les applications in vivo, en fait, de ce dont vous parlez. Et enfin, ce que je veux dire par in vivo, c'est que j'ai l'impression que ça, en laboratoire, ça marche bien. Vous nous avez montré qu'il y a des résultats, Maintenant, je revois la diapositive où il y a l'apprentissage d'une recette de cocktail. Est-ce que ça ne pourrait pas s'apprendre en vrai? Est-ce que ce n'est pas possible de remettre en place des ateliers cuisine où ça s'apprend avec une finalité qui est de goûter la recette et d'y avoir le droit, quoi.
Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Encore une fois, l'in vivo, c'est uniquement... l'in vitro, c'est uniquement pour passer à l'in vivo, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais nous, ce qu'on cherche et ce qu'on montre régulièrement par les études, et on a encore des études par rapport à la réinsertion professionnelle, ça, j'en ai pas parlé parce que c'est un projet qui va se mettre en place. Donc, ce qu'on montre, c'est que la vie des patients a changé par ça. Nous, c'est pas de l'in vitro qui nous intéresse, c'est réellement la vie quotidienne. Ensuite, bien entendu, ce que vous dites est tout à fait vrai. L'exercice sur les cocktails, il va être spécialement utile s'il est repris au cours d'ateliers cuisine. Et la remédiation cognitive n'est pas destinée à remplacer les activités cuisine, les activités médiatisées des hôpitaux de jour, des CATTP de France. C'est destiné à les compléter. C'est un plus. Et l'autre plus, c'est le fait d'introduire le bilan neuropsychologique qui va permettre d'y voir plus clair sur les possibilités d'un patient et rééduquer les déficits cognitifs. Donc, vous voyez, c'est des choses qui viennent en plus, mais qui ne viennent pas se substituer aux outils déjà existants. Et je suis complètement pour le maintien des différents groupes qui existent dans ces CATTP, ces hôpitaux de jour. Je me suis occupé pendant plusieurs années d'un CATTP et d'un hôpital de jour. Je me suis bien gardé de supprimer les outils classiques. En particulier, on avait des groupes photo-langage, on avait des groupes théâtre extrêmement payants pour les patients, on avait des groupes vidéo, on avait des groupes cuisine, on avait des groupes psycho-éducation, bien entendu, accompagnement des familles. Et on avait en plus la remédiation cognitive, IPT, CRT, RECOS. Mais c'était un plus. Et c'est possible d'introduire ça en plus dans les hôpitaux de jour et les CATTP. Il faut simplement que quelques soignants se forment et qu'on libère un petit peu de temps, quelques demi-journées par semaine. Ça, vous avez des équipes qui sont en général motivées pour le faire. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de compétition entre ces différents outils.
On a le temps encore pour une ou deux questions.
Vous êtes fatigué, j'ai l'impression qu'il faudrait faire un atelier cuisine ou en tout cas aller bientôt manger.
Bon, peut-être un commentaire et puis relancer, Jean, un petit peu la discussion. Remonter à l'introduction à Suzanne Urban et à la question de la validation, aux problématiques de validation que Mikulo vous posiez tout à l'heure. Il me revenait à l'idée un travail technique de Tato Sian là-dessus, suggérant qu'il y avait quand même deux types de validation qui se complétaient l'un l'autre. Un premier type qui est celui que vous avez évoqué, hein, qui est la validation scientifique avec une hypothèse qui se confronte à l'hypothèse nulle d'ailleurs, hein, et qui est strictement une opération épistémique neutre, enfin qui est un calcul de probabilité, alors, et qui pose la question liminaire de son intérêt éventuel dans la démonstration, quoi, hein, parce qu'on peut valider des hypothèses dont le résultat n'a aucun intérêt. D'ailleurs, c'est un des problèmes, hein, de la validation scientifique. Vous obtenez un résultat statistiquement significatif, mais cliniquement, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc, si vous voulez, ça, c'est la première partie des méthodes de validation qui sont les méthodes scientifico-techniques, empiriques, mathématiques. Voilà. Il y a une deuxième méthode de validation et qui est peut-être plus adaptée à la problématique de la clinique en médecine et notamment peut-être en psychiatrie et qui alors est une validation de consensus qui est irremplaçable. Qui éventuellement dans certaines situations peut être complété ultérieurement par avec des échelles d'évaluation, avec des cadrages, on l'avait fait pour les life events, ça peut être fait pour la qualité de vie, on le fera peut-être pour le sens de la cohérence, on verra. Mais c'est une validation de consensus, c'est-à-dire plusieurs experts à un moment donné, à partir d'une expérience, aboutissent à peu près à la même conclusion. Alors évidemment, elle n'a pas les mêmes caractéristiques mathématiques, elle n'est pas approchée de la même manière, mais c'est une validation très forte. Exemple, Jean Naudin est sympathique. Je pense que ça sera vite vu que... Eh oui, non, vous rigolez. Non, c'est pas, on ne rigole pas. Là, on valide. Hein, attendez. On valide. Jean est sympathique, on va être tous à peu près d'accord. Quoi. Je veux dire qu'il n'y a pas de... Et en plus, c'est évident. D'accord ? Donc vous êtes un peu embêté, c'est-à-dire vous n'êtes pas allé chercher une hypothèse, on ne s'est pas dit sympathique, pas sympathique, comment on va faire, etc. D'emblée, d'accord ? Jean Naudin joue très bien de la guitare électrique. Donc là, ça sera peut-être pas si facile que ça. Et on va dire, ouais, enfin, il joue 2-3 morceaux. Il y a longtemps qu'il joue plus. Le riff de truc, il passe pas très bien. Il faudrait qu'on revoie ça. Et là, on sera peut-être un peu moins d'accord. Mais vous voyez, il y aura un degré, il y aura un gradient, il y aura une je dirais que de l'expérience elle-même, on va immédiatement faire émerger quelque chose qui est plus qu'un savoir peut-être, hein, qui est une sorte de certitude, enfin alors du quotidien, je ne sais pas, qui fait qu'on quotidianise sans s'en apercevoir, d'où d'ailleurs notre bon état de santé, enfin relatif. Donc c'était, si vous voulez, c'était un commentaire pour peut-être adoucir le trait sur les histoires de validation. Vous demandez de garder un caractère critique continuel sur les validations scientifiques. Hein, je répète qu'une différence statistiquement significative, c'est parfois complètement bidon. D'accord ? Donc, il faut revenir aux problématiques et voir ce que ça donne en pratique à chaque fois. Vous pouvez vous tromper. Quelqu'un n'est pas sympathique, vous ne le trouvez pas sympa, ben vous vous trompez. Et vous allez apercevoir, en le connaissant mieux, que vous allez changer votre évaluation et que vous allez vous mettre à valider un truc que finalement vous allez partager avec d'autres. Et donc là c'est un autre enjeu, et un enjeu qui est, à mon avis, s'établit quand même sur l'expérience elle-même, je dirais, des gens. Alors pour rebondir sur moi, j'ai été très impressionné, hein, par Degan avec sa présentation du cas Suzanne Urban et la qualité très profonde finalement qui valide de son approche, qui valide absolument que nous psychiatres on peut pas tout faire et qu'on a besoin des philosophes pour vraiment travailler, réfléchir, penser. Et pour vous rappeler peut-être aussi que être étant, et Tatossian nous avait balancé ça, hein, moi je lui avais demandé, mais monsieur, comment on fait pour apprendre la phénoménologie? Il m'avait dit, ça ne m'intéresse pas, vous n'avez qu'à lire. Alors, et bon, mais je lis quoi? Oui, qu'à lire être étant, je veux dire. Et puis il était parti ronchonnant. Bon, alors j'ai été parti lire être étant, ce qui est une épreuve assez considérable. Enfin, c'était la première traduction Böhm et Valens. Et ce qu'il y a d'assez extraordinaire, c'est que, au fond, cette lecture, elle accroche une première question, justement, qui est qu'est-ce que c'est qu'une question? Et c'est page 10 à page 15. Et c'est très, très difficile. D'entrée, on arrive à des choses qui sont extrêmement difficiles, mais qui sont des épreuves de l'esprit, peut-être, qui vont nous donner une base, vont nous donner une perspective, un point de vue. Voilà. En tout cas, une position par rapport à un objet. Alors, ce que je voulais évoquer au final, donc, alors moi, je crois que Degan, il va falloir qu'on vous invite à Nice pour que nous présentiez ça. C'est magnifique. Non, c'est vrai. C'est magnifique. Et on a besoin donc des philosophes. On a besoin des autres, d'accord? Les schizophrènes ont besoin des autres. Nicolas vient de le dire, hein, quelque part, hein, très fort. Hein. Et nous aussi, psychiatres, on a besoin des autres. Et là, on a besoin des autres, des méthodologies, des gens qui sont des spécialistes de comment on pose une question. Voilà. Donc, il faut leur en poser, il faut savoir s'en poser, il faut progresser. Et le dernier point important, c'est que je crois que Jean a raison quand il dit que la phénoménie, ça sert à rien. Il faut pas que vous le preniez pour servir à quelque chose. C'est pas des recettes. Nicolas vous explique qu'il y a des trucs très importants qui sont très précis, ça s'apprend, on ne fait pas n'importe quoi, on le fait dans une certaine progression, dans un certain contexte. Voilà, ça, ce sont des guidelines, des recommandations très précises. La phénoménologie, ça ne sert absolument à rien, ce n'est pas des recettes, etc. Par contre, ça a des implications, voilà. C'est-à-dire que ça a des effets indirects, c'est-à-dire que ça ne se passe pas comme d'habitude. C'est-à-dire que le gros Tatossian, quand il prend une maniaque en poids, qui la trimballe dans la cellule, hein, la salle d'isolement, en hurlant, disant « ça suffit, madame, hein, maintenant, allez, hein, vous allez vous calmer, hein, poussez-vous tous ». Alors il éloigne tout le monde, il installe sa malade en poids, la malade est évidemment très surprise parce qu'elle ne s'attendait pas à être saisie, je dirais, hein, par l'autorité médicale-psychiatrique, qui se calme instantanément, tout le monde recule. Et il y a quelque chose de très particulier dans la compréhension immédiate de la maladie, voilà. Et donc je crois que ce sont des effets d'implication. D'ailleurs, bon, Jean, tu l'as écrit, puis on peut le recommander. Il faut que ça déclenche des protestations quand même, non, Mikulo, à vous.
Mais peut-être que ça va être le sujet de la discussion, la scientifisation et la scientificité de cet après-midi, justement, avec les intervenants de cet après-midi. Donc, je pense qu'on va clôturer pour cette matinée.